RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/frenh.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs du monde entier. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi de la mise au point de la semaine et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et les chansons indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et la mise au point de la semaine.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir les auditeurs de RRI du service mondial de la voix de l'Indonésie. Bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. L'Union économique eurasienne veut développer sa coopération avec l'ASEAN. L'ONU-SIDA coopérera avec les chefs religieux pour améliorer la conscience de la communauté sur le VIH ou SIDA. L'Indonésie et l'Arabie Saoudite renforcent son partenariat commercial. La ministre des Finances a dit que la stabilité des politiques publiques offre une certitude d'investissement. Chers auditeurs, voici le journal complet. L'Indonésie est intéressée par le développement de la coopération économique avec l'Union économique eurasiatique. Cela a été dit par l'ambassadeur de Russie à ASEAN Alexander Ivanov dans une conférence de presse à Jakarta le vendredi 30 novembre. Il a déclaré que la coopération économique était développée à travers un mécanisme de zone de libre-échange. Il a déclaré qu'un certain nombre de pays de l'ASEAN, tels que Singapour, la Thaïlande, le Cambodge et l'Indonésie, étaient intéressés à faire un accord de libre-échange avec l'Organisation des coopérations de l'Union économique eurasiatique. Lors du sommet russo-asiatique tenu à Singapour en novembre, l'ASEAN et la Russie, par l'intermédiaire de la Commission économique eurasienne, ont signé le mémorandum d'accord sur la coopération économique. Dans un proche avenir, la Russie et l'ASEAN organiseront un atelier sur le thème « L'intégration économique régionale dans l'Union économique eurasiatique » ou UEE et l'ASEAN. Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH ou SIDA ou ONU-SIDA va coopérer avec des chefs religieux en Indonésie pour éduquer le public sur le VIH ou SIDA. La directrice de l'ONU-SIDA pour l'Indonésie, Tina Bonto, a déclaré que les organisations religieuses et leurs dirigeants ont une grande influence sur la société indonésienne. Cela a été dit lorsque Tina Bonto a tenu une conférence de presse au bureau de l'Institut d'aide juridique communautaire au sud de Jakarta vendredi 30 novembre. Elle espère également que les chefs religieux pourront fournir des informations scientifiques factuelles sur la maladie. L'ONU-SIDA veut briser les stigmates et les mythes entourant le VIH ou SIDA qui constituent un obstacle majeur au traitement de l'affaire. L'ONU-SIDA utilise également les médias sociaux pour sensibiliser les personnes liées à la maladie et celles infectées par le virus. Tina a dit qu'elle faisait aussi un chatbot dans l'application de messages courts LINE. par le canal plus personnel, tel que le chatting, on espère que le public sera plus motivé et se sentira plus à l'aise lorsqu'il cherche des informations. Les entrepreneurs d'Indonésie et d'Arabie Saoudite renforcent les partenariats commerciaux. Cela s'est reflété dans la mise en œuvre du Forum des affaires Indonésie-Arabie Saoudite comme une série d'événements Made in Indonesia Expo 2018 à Jeddah. Comme l'a déclaré le directeur général du développement des exportations nationales du ministère du Commerce, Erlinda, à Jeddah vendredi. L'exposition se déroule du 28 novembre au 1er décembre. Selon Erlinda, l'enthousiasme des hommes d'affaires saoudiens était très fort dans ce forum qui s'est tenu pour la première fois. Les entrepreneurs ont immédiatement indiqué les secteurs avec lesquels ils souhaitent travailler et ont ciblé un certain nombre de produits indonésiens à distribuer dans leur pays. Cela prouve que divers produits indonésiens ont des normes conformes à celles de la population saoudienne. Erlinda a expliqué à cette occasion que les relations entre les deux pays duraient depuis longtemps. Depuis des siècles, des érudits et des marchands arabes se sont rendus en Indonésie pour y prêcher et commercer. Les Indonésiens se rendent également en Arabie Saoudite pour le pèlerinage et étudier l'islam. La ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a déclaré que des politiques publiques stables pourraient assurer la sécurité juridique et l'entrée d'investissements. Selon le communiqué de presse vendredi à Jakarta, cette question a été dite par Sri Mulyani dans la réunion du G20 qui s'est tenue à Buenos Aires, en Argentine, jeudi 29 novembre. Au cours du forum, Sri Mulyani a déclaré que l'Indonésie avait élaboré diverses stratégies pour attirer des investissements durables à long terme. En outre, le gouvernement doit pouvoir devenir une institution publique de confiance avec une bonne réputation. Le gouvernement doit posséder et maîtriser les risques politiques qui sont souvent rencontrés dans les pays en développement. Sri Mulyani a souligné que par ces trois éléments, le gouvernement indonésien pourrait concevoir des instruments et des besoins pour les partenariats publics-privés afin de répondre aux besoins de financement des infrastructures. Elle espère que les pays en développement pourront reproduire ce que l'Indonésie a fait avec ses innovations. Chers auditeurs, c'est tout le journal d'aujourd'hui.
La mise au point de la semaine vous présente les questions d'actualité dans la semaine.
Bonsoir à tous, je suis Thuy et j'ai plaisir de vous présenter le programme de la mise en point de la semaine. Le titre d'aujourd'hui est « L'Indonésie partage ses expériences de la lutte contre le terrorisme ». Les auditeurs, le chef de la police de la République d'Indonésie, Tito Karnavian, a participé à la conférence des spécialistes de la police organisée par la force de police de Singapour à l'hôtel de Mara Tanjung Pagar de Singapour du 28 au 30 novembre 2018. Monsieur Tito a bien accueilli cet événement en tant qu'effort conjoint de lutte contre le terrorisme. En fait, il a proposé de l'organiser de manière routinière pour partager des informations et des expériences, surtout en matière de lutte contre le terrorisme. Tito, dans sa déclaration écrite de mercredi 28 novembre 2018, a déclaré que le terrorisme était une forme de criminalité transnationale. Nous devons donc toujours renforcer la coopération internationale pour la lutte contre le terrorisme. Pour cela, l'atténuation nécessite une bonne coopération de la part de toutes les forces de sécurité transfrontalières. En outre, il a également tenu une réunion bilatérale avec M. Amrin Amin en tant que secrétaire parlementaire principal au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Santé de Singapour afin de renforcer la coopération instaurée entre la police de la République d'Indonésie et la force de police de Singapour. Compte tenu de l'expérience et du succès de la police indonésienne sur la lutte contre le terrorisme, M. Amrin a souligné la nécessité pour la police de Singapour d'étudier avec celle d'Indonésie sur la prévention et le traitement du terrorisme. Amrin Amin a ajouté que l'invitation adressée au chef de la police indonésienne était une forme d'appréciation du succès et du rôle important de la police de la République d'Indonésie sur l'éradication du terrorisme mondial. Selon lui, cette activité a une signification importante pour l'amélioration de la capacité du personnel impliqué dans le traitement de ces spécifiques tels que le terrorisme, la drogue et le trafic d'êtres humains. Donc, M. Amrin a déclaré que la synergie et le travail de la police sont très importants pour vaincre les crimes impliquant plusieurs pays. Une centaine d'éminents praticiens et universitaires de la police de divers pays ont assisté à la conférence afin de discuter d'un certain nombre d'informations concernant l'éradication du terrorisme, les efforts déployés pour réaliser la sécurité publique et le renforcement des capacités institutionnelles et du personnel de police. Des représentants des chefs forces spéciales de divers pays impliqués dans la lutte contre le terrorisme ont y assisté, comme la police fédérale allemande de Bundespolizei, la police fédérale australienne, le département de police d'Anvers, la force de police royale de Brunei, aussi l'attaché de la gendarmerie royale du Canada, la force de police de Hong Kong, l'Alameda County Sheriff Office des États-Unis, Interpol, Europol, le détachement spécial 88 antiterroriste de la police de la République d'Indonésie. À cette occasion, le chef de la police de la République d'Indonésie, accompagné par le chef adjoint du détachement spécial 88 antiterroriste de la police de la République d'Indonésie, le brigadier général de la police, Martinus Hukom, est le chef du bureau de la mission internationale de la division des relations internationales de la police de la République d'Indonésie, le brigadier général de la police, Krishnamurti. C'est tout la mise au point de la semaine.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir à tous. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 2 décembre 1915, Albert Einstein a publié sa théorie de la relativité générale. La relativité générale est une théorie géométrique de la gravité introduite par Albert Einstein en 1916. Cette théorie est la réelle explication de la gravité en physique moderne. Il a unifié la théorie précédente d'Einstein, la relativité restreinte, avec la loi de la gravité de Newton. La théorie d'Einstein a d'importantes implications astrophysiques. Cette théorie prédit l'existence d'un trou noir dans lequel l'espace et le temps sont déformés, de sorte que personne ni la lumière ne puisse y échapper. Le 2 décembre 1971, les Émirats arabes unis sont établis. Les Émirats arabes unis sont une fédération de sept émirats riches en pétrole. Ces sept émirats sont Abu Dhabi, Ajman, Dubaï, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah et Al Kaiwan. En 1971, six de ces États, Abu Dhabi, Ajman, Fujairah, Sharjah, Dubaï et Al Kaiwan, ont uni leurs forces pour établir les Émirats arabes unis. En 1972, Ras Al Khaimah les accompagnait. La richesse des Émirats arabes unis basée sur les dépenses de pétrole et de gaz qui représentent 33% du produit intérieur brut du pays. Les Émirats arabes unis sont le troisième plus grand producteur de pétrole de la région de Dubaï après l'Arabie saoudite et l'Iran. Depuis 1973, les Émirats arabes unis ont changé, de petit pays situé dans le désert devient un pays moderne dont le niveau de vie est élevé. Le 2 décembre 1986, la journée internationale de l'abolition de l'esclavage. Le 2 décembre de chaque année, divers groupes d'activistes du monde entier commémorent la journée internationale de l'abolition de l'esclavage en tant qu'acte concret visant à éliminer le trafic et l'exploitation humaine. La commémoration de la journée internationale de l'abolition de l'esclavage a eu lieu pour la première fois en 1986 après son lancement par l'Assemblée générale des Nations unies et sa mise en œuvre par l'Agence des Nations unies pour l'éducation, la culture et le patrimoine mondial ou l'UNESCO. La commémoration de la Journée nationale de l'esclavage a pour objectif principal de souligner la nécessité d'éradiquer les formes modernes d'esclavage dans le monde entier. Les formes d'esclavage et d'exploitation humaine à l'ère moderne doivent être complètement perdues. Chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir tout le monde, voici le programme de mon Indonésie. Aujourd'hui, on va parler de la semaine des sports traditionnels de Java de l'Est 2018. La semaine des sports traditionnels de Java de l'Est en 2018 s'est tenue dans la ville de Madiun, Java de l'Est, le 26 et 28 novembre. Tous les districts et villes de la province ont participé à l'activité organisée par l'Agence de la jeunesse et des sports de Java de l'Est. Le chef de l'Agence de la jeunesse et des sports de Java de l'Est, Supratomo, a déclaré que la semaine des sports traditionnels était un effort de l'Agence de la jeunesse et des sports de Java de l'Est pour préserver et développer les sports traditionnels qui étaient le patrimoine culturel du pays. De plus, pour créer des conditions de vie saines en améliorant la forme physique. En plus de préserver les traditions et la culture de la communauté, les sports traditionnels incitent également les enfants à bouger de manière active afin que le corps soit en bonne santé. Selon Supratomo, c'est maintenant l'ère numérique. Les enfants aiment jouer aux gadgets, dont ils manquent de bouger. Si ces sports traditionnels sont développés, ils seront en meilleure santé et la productivité augmentera. Dans cette épreuve, 5 sports traditionnels sont disputés, à savoir Hadang des femmes, Dagongang des femmes, Egrang des femmes, Trompah panjang des hommes, et Sumpit des hommes. Le nombre de participants impliqués a atteint environ 407 personnes de 38 représentants des villes ou régions de la région de Java de l'Est. Les participants ne sont pas seulement des étudiants, mais aussi du grand public, non-membres de TNI ou Polri, âgés de 17 ans à 40 ans. Dans le même temps, le maire de Madiun, Sugeng Rismianto, a bien accueilli le programme de travail qui s'est tenu pour la première fois dans la ville de Madiun. La ville de Madiun le soutient pleinement, soit des installations de place, ainsi que celles de budget. Chers auditeurs, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie. Au revoir.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Tous les auditeurs de La Voix de l'Indonésie avec moi, Tiwi, dans la rubrique du Magazine Culturel. Dans cette édition, je vais vous présenter le lac Tigi de Papouasie. Alors, restez avec nous à RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie par www.voinews.id. La charme de la beauté naturelle de la Papouasie est déjà célèbre à l'étranger. Explorer et profiter la beauté de Papouasie est sans égal, parce que là, on va trouver une beauté naturelle renversante. Non seulement la beauté de la côte, les zones montagneuses de la Papouasie a également beaucoup d'attractions touristiques, entre autres, et le lac Tigi, qui se trouve juste au pied du montagne Deyai. Le lac Tigi est situé dans le district de Digiay et le district de Deyai à 1700 mètres d'altitude. La profondeur de ce lac est jusqu'à 150 mètres. Comme il est dans les hauteurs, donc l'air autour de le lac Tigi est très froid. Le lac Tigi est une très belle attraction naturelle avec l'eau du lac bleu qui est vraiment claire et le paysage magnifique au pied du montagne Deyai. Voilà la petite description de la beauté du lac Tigi qui est géniale. Complètement, au milieu du lac se trouve l'île de Douaumont. Beaucoup de touristes nationaux et étrangers la visitent. Au coucher du soleil, ce lac exotique devient plus beau. Les bateaux de pêche se sont arrêtés, les petits oiseaux qui ont volé bas et ont parfois attrapé l'eau, rendant la vue du lac au soir plus belle. En plus de profiter du paysage, les touristes peuvent également pêcher ou louer un bateau appartenant à la population pour entourer le lac. Si vous voyagez là-bas, il semble incomplet si vous n'avez pas visité le village de la tribu de Mé et la tribu de Moni, deux grandes tribus qui vivent dans les montagnes de Paniai autour du lac Tigi. Là, vous pouvez voir la maison traditionnelle de Papouasie, Honai, et la vie quotidienne de la population. De plus, vous pourrez également voir les attractions artistiques et obtenir les souvenirs typiques de ces deux tribus. Chers auditeurs, dans la région du lac Tigi, il existe diverses installations telles que le poste de gare, les guides touristiques, le chalet, la location de bateaux, la location d'équipements de pêche et les petites écopes. Si vous voulez rester là, vous pouvez louer des maisons situées autour du lac ou camper dans divers endroits de la région. Tandis que si vous voulez obtenir un hébergement complet, vous devez aller à la ville de Narotali, la capitale du district de Paniai, parce qu'il y a des magasins, des marchés, des restaurants, des maisons de culte, ainsi que des hôtels et de différents types. De la ville de Narotali, l'accès au lac Tigi est très facile. Vous pouvez prendre le bus pour traverser des routes qui sont escarpées et sinueuses. Vous pouvez également prendre l'avion de type Cessna qui peut atterrir dans les hôtels. Mais le coût de l'utilisation d'avion est plus élevé que l'utilisation du bus. Chers auditeurs, voilà l'édition du magazine culturel sur le lac Tigi de Papouasie. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Au revoir!
warna-warni. L'Indonésie en couleur présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir les auditeurs de RLI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. On se rencontre dans la rubrique L'Indonésie en couleur avec moi, Tiwi. J'ai le plaisir de vous informer sur le titre Représentant l'Indonésie, la ville de Surabaya a été nominée pour le prix de Guangzhou 2018. Restez avec nous à RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. Parlons de cours de 3325 kHz ou par www.voinews.id. Chers auditeurs, la ville de Surabaya est à nouveau incluse dans la candidature au prix de Guangzhou 2018. C'est la quatrième fois que Surabaya participe à l'événement de niveau international. La maire de Surabaya, Tri Risma Hari Ini, est optimiste que Surabaya remportera ce prix prestigieux. Le gouvernement de Surabaya s'efforce toujours d'améliorer la qualité de l'environnement de la ville. Un certain nombre de projets de développement sont en cours, notamment la réparation des voies navigables, l'élargissement des routes et l'augmentation de la capacité des stations de pompage. Tri Risma Hari Ini a déclaré que les résidents qui soutenaient le développement du gouvernement de Surabaya pourraient également participer au prix de Guangzhou. Les citoyens pourraient poster des votes sur le lien vote guangzhouworld.org ou en ou vote.aspx. Les auditeurs, M. Fixer, responsable des relations publiques du gouvernement de la ville de Surabaya, a déclaré qu'il y a quelque temps, lors de l'événement de United City and Local Government, les juges du prix international de l'innovation urbaine de Guangzhou 2018 étaient venus à Surabaya pour évaluer la similitude des propositions soumises avec des conditions sur le terrain. Ils sont venus sans préavis et ne voulaient pas être accompagnés par le gouvernement de la ville de Surabaya. Monsieur Fixer, cité par Akurat Poanko, a déclaré qu'il voulait directement voir l'impact du gouvernement de la ville de Surabaya. Sur les 900 villes, 169 villes de 66 pays ont été sélectionnées, puis 15 villes, y compris Surabaya. Tandis que Nicolas Yu, directeur de l'Institut pour l'innovation urbaine de Guangzhou, a exprimé la raison pour laquelle Surabaya avait été sélectionnée pour le prix de Guangzhou 2018. Selon lui, l'initiative menée par Risma impliquant des éléments de la communauté était devenue un mouvement social tel que le paiement des transports en commun en utilisant des bouteilles en plastique usagées. De plus, l'initiative de la ville de Surabaya en matière de traitement des déchets est très créative et basée sur un modèle commercial peu coûteux et durable. Il a ajouté que même si la population augmentait, la quantité de déchets produits était réduite. Cela peut être imité par d'autres pays. Nicolas a déclaré que Surabaya méritait d'être qualifiée de ville durable. C'est basé sur un système participatif de gestion des déchets qui est un indicateur clé du changement de comportement. Cela peut aussi être l'un des ingrédients les plus importants pour introduire des changements dans d'autres secteurs tels que les transports, l'énergie, la sécurité et la nutrition. Représentant l'Indonésie, Surabaya sera en compétition avec 15 villes pour remporter ce prix prestigieux. Les villes sont Bruxelles, en Belgique, Dangbo, en Bénin, District fédéral, en Brésil, Vaudreuil-Dorion, au Canada, Vancouver, au Canada, Guangzhou, en Chine, Nanning, en Chine, Bogota, en Colombie, Curridabat en Colombie, Saint-Étienne-Berg en Allemagne, Isfahan en Iran, Hong Kong en Chine, Eilat en Israël, Warszawa en Israël et Bologne en Italie. Les villes sélectionnées seront invitées à Guangzhou au début de décembre. Là, le juge décidera du gagnant basé sur la présentation et la demande écrite préparée par chaque ville. C'est tout l'Indonésie en couleur cette fois-ci. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Au revoir!
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir chers amis, voici une édition courrière et musique de La Voix de l'Indonésie. Toute l'équipe de l'émission française de La Voix de l'Indonésie vous remercie d'avoir envoyé les courrières, les cartes postales, les rapports d'écoute et les messages. Dans ce programme, nous allons saluer nos auditeurs et également présenter des chansons indonésiennes. Cette fois, nous avons déjà sélectionné des chansons pop chantée par une chanteuse Ari Lasso. Ari Lasso est un chanteur dont le vrai nom est Ari Lasso Bernard, était un ancien chanteur du groupe Dewa 19, qui était l'un des groupes populaires en Indonésie. En 1997, après la sortie de l'album Pandawa 5 de Dewa 19, il a finalement été libéré du membre de Dewa 19. Sa position en tant que chanteur principal a été remplacée par Once. Après être sorti de Dewa 19 ou Dewa 19, il a commencé une carrière solo. Le premier single intitulé « Jika » ou en français « Je suppose » chanté avec Melly Guslau, la chanteuse du groupe Portrait. Cette chanson a été sortie en 1999 et bien accueilli par les auditeurs de musique en Indonésie. Ceci a été démontré par l'attribution de AMI Award pour le meilleur progressive pop songs. En 2001, il a sorti son premier album solo intitulé « Sendiri Dulu » ou en français « Seul d'abord ». Le single dans cet album est « Le Mystère Ilahi » ou en français « Le Mystère Divin ». En 2012, Ari a lancé un album intitulé « La meilleure ». Avant de saluer nos auditeurs, écoutons la chanson de Ari Lasso intitulée « Jika » ou en français « Si ». Bonne écoute et restez avec nous à RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie.
Untuk selamanya pun.
Merci, chers amis, d'être fidèles à écouter la voix de l'Indonésie. Nous allons dire bonjour à fidèles auditeurs Merdin Murad à Nahmushi Nuari, BP 154 Bissetif, 19000 Algérie. Voici son email le 18 août. Bonne fête nationale à tous les Indonésiens et Indonésiennes. Merci beaucoup pour votre email. Passons également le bonjour à Vladislav Levsanov en Russie. Allo Bernard Grondin à Saint-Quel-du-Pont, 97427 est en salle les autres, île de la Réunion, océan Indien. Comment allez-vous? Nous espérons que vous êtes toutes en bonne santé. Chers amis, on écoutera maintenant la deuxième chanson intitulée « Le sens de l'amour » chantée par Ari Lasso. Bonne écoute! Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie. C'était la chanson de Ari Lasso intitulée Le sens de l'amour ou l'indonésien Arti Cinta. Les meilleures salutations à Maurice Mercier en France, précisément à 537 rue François Giraud, 69400 Villefranche-sur-Saône, et Abdelkader Khalil, adresse BP 669 Ouargla, Algérie. Omar Lassas, BP 530 Bureau de Poste Emir AEK, 29008 Mascara, Algérie. Et Sergi Giovanni, via Sibari, 398149 Messina, l'Italie. Chers amis, nous sommes très heureux de recevoir vos lettres, emails et messages de tous les coins du monde. Restez toujours en contact avec nous et nous attendons avec impatience d'autres lettres à rapport d'écoute. Nous vous remercions aussi pour la carte postale. Voici les deux dernières chansons intitulées Cinta Terakhir ou en français Dernier Amour et Cintailah Aku Sepenuh Hati. En français, aimez-moi sincèrement. Chers amis, bonne écoute et à la semaine prochaine.
Sedalam samudra tak aku selami. Setinggi langit di angkasa telah ku anungi. Sepanjang kehidupanku aku mencari sebentuk kelembutan hati cinta sejati. We'll be right back.
berarti. Sanggupkah dirimu untuk bertahan hingga waktu tak berjalan? Mencintaiku walau bintangku tak terang. Cintailahku sepenuh hati sesungguhnya. Aku tak ingin kau pergi, takkan mampu ku hadapi dunia ini. Bila kau tinggalkanku, tetaplah di sini, saling memiliki sama lamanya. Cinta satu jatuh nanti. Menangis sepi,
menangis sepi.
Cintailahku sepenuh hati sesungguhnya. Aku tak ingin kau pergi. Cintailahku
depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
My
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/FRENCH. Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.